Vous écoutez, on lit pour vous.
Santé. Vraiment? Un texte de Sylvia Galipeau, paru le 22 février 2024 dans la presse. C'est la nouvelle boisson énergisante de l'heure. Celle dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux, fraîchement arrivée au pays et apparemment meilleure pour la santé. La coquette canette aux couleurs vitaminées surpasserait toutes les autres sur le marché. Ah bon? Pas exactement, nuance deux expertes en nutrition. Prétention, nuance et vérité en cinq temps. 1. La petite histoire. Celsius, de son petit nom, cette boisson énergisante a été lancée en 2004. C'est à un certain Steve Halley que l'on devrait le concept dans lequel PepsiCo a massivement investi en 2022 pour en devenir l'un des actionnaires prioritaires. Il faut savoir que le rappeur Florida a poursuivi l'entreprise l'an dernier pour une histoire d'entente financière non respectée qui a beaucoup fait jaser. S'il a gagné sa cause, l'affaire de plus de 80 millions de dollars n'a pas empêché la marque de continuer de gagner en popularité. Aujourd'hui, on dit que Celsius serait la boisson énergisante connaissant la croissance la plus rapide aux États-Unis. Se déclinant en cinq parfums pétillants, Peach Vibe, Sunset Vibe, Saveur d'orange, Saveur de kiwi et goyave et Tropical Vibe. Les canettes de 355 millilitres viennent d'atterrir dans toutes les épiceries du pays au début du mois. 2. Les prétentions. Sur papier, Celsius se veut la marque de choix pour une vie active. La marque, qui joue à fond la carte de la santé, dit aussi se démarquer des autres boissons du genre avec une formule unique et des ingrédients plus santé, tels le gingembre, le guarana, le thé vert et 7 vitamines essentielles. En outre, peut-on lire sur le site de la marque, les boissons Celsius ne contiennent ni sucre, ni aspartame, ni sirop de maïs, ni saveur artificielle, ni gluten. Côté énergie, les canettes Celsius vendues aujourd'hui au Canada contiennent 140 mg de caféine, ce qui respecte le maximum admis, 180 mg par portion, au pays. À titre de comparaison, un Red Bull, 250 ml, en contient 80 mg et un café ordinaire, 95 mg. À noter que la boisson a toutefois fait l'objet d'un rappel en décembre dernier au pays pour cause d'étiquetage non conforme, non bilingue, et surtout parce que la teneur en caféine dépassait alors le maximum prescrit par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Invité à réagir, Celsius réplique. En fait, le produit Celsius concerné par le rappel de Santé Canada n'a pas été fabriqué pour le marché canadien et n'a pas été importé dans le pays par des canaux autorisés par l'entreprise. 3. La réalité. Alors, quoi penser? Ces boissons révolutionnent-elles le genre ou pas? Rien de nouveau ici, du gros remâché, quoique sous un nouvel emballage, répond sans hésiter Mélanie Olivier, nutritionniste, présidente de Vivaï et experte en nutrition sportive. Les ingrédients qui se veulent santé, tels le gingembre, qu'on retrouve par ailleurs dans plusieurs autres boissons du genre, sont en quantité minimale, sans aucun effet sur la santé, tranche-t-elle. Côté vitamines, ajoute la docteure en nutrition Isabelle Huot, on dépasse l'apport recommandé, 250% pour la vitamine B12 et 118% pour la vitamine B2, illustre-t-elle. Quel intérêt! On donne l'impression que c'est mieux, mais est-ce qu'on a besoin de ça? C'est de la multivitamine surdosée avec un café, ironise-t-elle. Surtout, s'entendent les deux expertes, s'il n'y a certes ni sucre ni aspartame, les boissons Celsius sont sucrées ou sucralose, l'un des pires édulcorants pour le microbiote. Le sucralose peut en outre déjouer le cerveau et stimuler des fringales pour des aliments qui apportent du vrai sucre, souligne Isabelle Huot. Je n'encourage pas ça, et surtout pas au quotidien. Et il suffit d'une gorgée pour le confirmer, cela goûte effectivement drôlement sucré. 4. L'enjeu des jeunes. C'est la principale préoccupation d'Isabelle Huot, qui souhaite vivement que la vente de ce type de boisson soit mieux encadrée. Les emballages sont attirants. On vante la performance, ça dégage la santé. C'est attirant pour les jeunes, déplore-t-elle. Certes, le produit est déconseillé aux moins de 14 ans, est-il indiqué en tout petit sur le produit. On dit aussi de se limiter à une consommation par jour. Mais ça m'inquiète, parce que c'est bon au goût et on va avoir tendance à en boire davantage. Si on ne recommande pas aux enfants de consommer de boissons énergisantes, les adolescents 13 ans et plus ne devraient quant à eux pas dépasser 2,5 mg de caféine par kilogramme de poids corporel. Au-delà de ça, cela peut amener des palpitations. On a vu des cas d'arythmie cardiaque. Cela peut entraîner de l'insomnie, provoquer de l'anxiété, etc. Plusieurs experts commencent aussi à se prononcer en ce sens sur TikTok. Ce n'est pas tout, ajoute Isabelle Huot. On donne l'impression qu'on a besoin de ça pour performer tant à l'école que dans une activité sportive. Mais la meilleure boisson, ça reste l'eau. 5. Et les adultes, alors? Cela étant dit, en mal de caféine, avant un entraînement ou une longue soirée au boulot, est-ce qu'une canette ici ou là peut vraiment faire du tort à un adulte majeur et vacciné, docteur? De nouveau, nos deux interlocutrices s'entendent. En manque d'énergie, mieux vaut ici prendre un bon vieux café, un thé, ou pourquoi pas, un matcha. Le danger avec ces boissons, c'est que les gens ne savent pas s'ils réagissent à la source de caféine ou pas. Et si on jumelle avec d'autres stimulants, un café, un thé, du chocolat ou une autre boisson sportive, ça s'accumule, met en garde Mélanie Olivier. Sans parler des risques bien connus associés au mélange avec l'alcool ou d'autres substances. Et si vraiment, vous avez une rage de boissons énergisantes, une option ou plutôt un moindre mal, disent Mesdames Olivier et Huot, serait sans doute le gourou, ou encore Oya Infusion, des produits québécois et naturels sans mauvais édulcorants dans leur liste d'ingrédients. En même temps, les boissons pétillantes, les dentistes ne sont pas fous de ça non plus, rappelle la nutritionniste. Comme dirait l'autre, en as-tu vraiment besoin? C'était « Santé vraiment », un texte de Sylvia Galarneau, paru le 22 février 2024 dans La Presse.
Les villes doivent cesser d'imposer une densité maximale, plaide des experts. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 5 mars 2024 dans Le Devoir. Les grands centres doivent cesser d'imposer une densité maximale aux projets immobiliers et être tenus d'alléger la charge fiscale imposée aux projets immobiliers à but non lucratif, plaide un comité d'experts canadiens à la recherche de solutions à la crise du logement qui frappe le pays. Le groupe de travail indépendant sur l'habitation et le climat, composé d'une quinzaine d'experts, notamment en urbanisme et en architecture, de même que de plusieurs anciens politiciens, a réalisé un plan détaillé d'une soixantaine de pages comprenant une dizaine de recommandations destinées aux différents paliers de gouvernement. L'objectif de cette démarche, faciliter l'atteinte de la cible fixée par la Société canadienne d'hypothèques et de logements, selon laquelle 5,8 millions de propriétés devraient être construites à l'échelle du pays d'ici 2030, afin de rétablir l'abordabilité du marché immobilier pour les Canadiens. En ce sens, les auteurs du rapport, rendu public ce mardi, proposent notamment que les villes et les provinces cessent d'imposer une densité maximale aux projets immobiliers dans certains secteurs, afin que ceux-ci puissent accueillir plus de logements. Les membres de ce groupe de travail estiment en particulier que des développements immobiliers de grande hauteur devraient être autorisés dans les secteurs desservis en transport en commun dans une optique de développement durable. Citation : Ça ne fait pas de sens d'avoir une densité basse autour de secteurs où il y a un bon réseau de transport en commun, comme le réseau express métropolitain. Fin de citation, illustre en entrevue Lisa Raitt, ex-ministre fédérale des Transports et membre de ce groupe, jointe par Le Devoir en amont de la publication de ce rapport obtenu sous embargo. À l'inverse, les nouvelles constructions devraient être interdites dans les zones inondables ou ayant été la proie dans le passé d'incendies de forêt, dont l'intensité a pris de l'ampleur dans les dernières années, notent les membres de ce groupe de travail. Citation : On doit s'assurer que les gens ne construisent pas dans des zones où c'est voué à l'échec. Fin de citation, puisque leur demeure y sera détruite dans les prochaines années par les aléas du climat, souligne Mme Raitt. Traitement différencié. Le rapport recommande d'autre part que 40% des 5,8 millions d'unités qui seront construites au pays soient des logements à but non lucratif et donc protégés de la spéculation immobilière. Pour faciliter l'atteinte de cette cible, le rapport recommande aux villes canadiennes de, citation, renoncer aux redevances d'aménagement et aux taxes foncières sur toutes les formes de logements dont l'abordabilité est garantie pour 40 ans. Fin de citation. Citation, ce qu'on demande au niveau municipal, c'est un traitement différencié en faveur du secteur à but non lucratif. Fin de citation, afin que les promoteurs privés développent un plus grand appétit en faveur de la construction de logements abordables, explique en entrevue Adam Mongrain, directeur des dossiers en habitation de Vivre en ville. Citation, il y a beaucoup de nos mesures qui vont dans le sens de réduire les coûts de réalisation de la construction neuve pour que les projets à but non lucratif réussissent à trouver preneur. Fin de citation, relève-t-il. Le rapport demande également aux pouvoirs publics de faciliter la conversion de bureaux en logements dans les centres-villes, comme cela se fait déjà à certains endroits. À l'approche de la saison des budgets, tant de la part des provinces que du gouvernement fédéral, Lisa Raitt se montre d'ailleurs optimiste quant à la place que ceux-ci accorderont à la crise du logement, qui est au cœur des préoccupations des Canadiens. Citation, les gouvernements vont vouloir agir et rapidement. Fin de citation, espère-t-elle. C'était « Les villes doivent cesser d'imposer une densité maximale » plaide des experts. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 5 mars 2024 dans Le Devoir.
Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Un texte de Rima El-Khoury, paru le 27 février 2024 dans La Presse. Si j'avais été frappé, la police aurait pu m'aider. Mais là, personne ne peut rien faire pour moi. C'est le genre de témoignage que reçoit souvent le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales de la part de celles qui ont vécu ce que l'on appelle du contrôle coercitif. On parle ici d'une série de tactiques et de gestes de contrôle mis en place petit à petit par un conjoint ou un ex-conjoint pour isoler sa proie, la terroriser, l'humilier et la priver de sa liberté. Une violence invisible qui, a priori, ne fait pas d'ecchymose, mais qui n'en est pas moins grave. Si la violence physique et les féminicides sont universellement condamnés, les comportements qui impliquent une violence non physique dans le couple sont encore trop souvent normalisés, banalisés, voire romantisés, ont rappelé Louise Riendeau et maître Karine Barrette du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, qui déposait lundi à Ottawa un mémoire en faveur de la criminalisation des conduites contrôlantes et coercitives. Louise Riendeau et Karine Barrette ont présenté leur mémoire au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes dans le cadre de l'étude du projet de loi d'initiative parlementaire C-332. Ce projet de loi, proposé par le nouveau Parti démocratique, vise à faire du contrôle coercitif une infraction criminelle. Même si on ne parle plus aujourd'hui de femmes battues, le mythe voulant que la violence conjugale ne soit que physique est tenace. La réalité est tout autre. La majorité des femmes qui ont reçu du soutien d'une maison d'hébergement en 2022-2023 indiquent que le motif principal de leur demande n'est pas la violence physique. Dans les cas de violence post-séparation, on parle essentiellement de violences d'ordre psychologique et moral. Harcèlement, contrôle, menaces de violence physique ou de mort, dénigrement auprès des enfants, manipulation de ces derniers et de l'entourage. L'agresseur va souvent déployer une multitude de tactiques pour ainsi reprendre le contrôle après une rupture. Loin d'être banal, ces tactiques constituent autant de drapeaux rouges qui, détectés à temps, permettent de sauver des vies. L'immense majorité des homicides conjugaux sont précédés de contrôles coercitifs. Dans une proportion importante de cas, près du tiers selon une étude réalisée aux États-Unis, le meurtre ou la tentative de meurtre était le premier geste de violence physique visant la victime. Malheureusement, nombre de femmes qui demandent de l'aide lorsqu'elles subissent du contrôle coercitif constatent qu'en l'absence de violence physique, le système de justice a peu de moyens pour les protéger. Elles auront beau avoir été terrorisées pendant des années par leur agresseur. Elles auront beau voir se multiplier les fractures invisibles dans leur vie et celles de leurs enfants. Elles constatent avec désarroi que ce n'est pas pris suffisamment au sérieux. Ou alors que ce l'est juste quand il est déjà trop tard. Même les policiers eux-mêmes nous le disent. Je le sens bien que cette femme vit sous contrôle et qu'elle a peur, mais j'ai les mains liées. Je ne peux rien faire pour elle. Il n'y a pas d'infraction qui correspond à ce qu'elle a vécu, souligne Louise Riendeau, co-responsable des dossiers politiques au sein du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Le regroupement mène depuis plus de 2 ans un vaste projet d'amélioration de la pratique judiciaire qui a permis d'offrir des formations sur le contrôle coercitif à plus de 4000 acteurs judiciaires à travers le Québec. Il a aussi créé pour les victimes, qui peinent souvent elles-mêmes à reconnaître qu'elles vivent de la violence conjugale, un livret explicatif, fort utile, intitulé « Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle » qui leur permet d'y voir plus clair. Au printemps 2023, le regroupement est aussi allé à la rencontre d'intervenants en Angleterre et en Écosse qui ont été parmi les premiers à criminaliser le contrôle coercitif afin de tirer des leçons de leur expérience et de voir comment on pourrait s'en inspirer. Tous s'entendent pour dire qu'ils ne reviendraient pas en arrière. Même s'il reste du chemin à faire, il rapporte que la criminalisation a entraîné un changement de conversation essentiel vers une meilleure intervention en matière de violence conjugale, souligne Louise Riendeau. Certaines expertes et militantes féministes, ayant participé à l'étude du projet de loi, s'y opposent. Elles craignent que ce soit un coup d'épée dans l'eau, ou pire encore, un réel coup d'épée pour des populations marginalisées déjà surjudiciarisée. Si l'infraction ajoutée au code criminel est mal interprétée, qu'elle accable davantage des populations déjà accablées ou qu'elle se retourne contre celle-là même qu'elle entend protéger, à quoi bon? Il s'agit là du risque bien réel, reconnaît Louise Riendeau. Mais il pourrait être surmonté si on s'assure que la loi s'accompagne de mesures obligatoires comme la sensibilisation, la formation et la consultation avec les principaux concernés. Forte de l'expérience déjà très positive menée depuis octobre 2021 pour offrir de la formation aux policiers, aux procureurs et aux juges appelés à intervenir auprès des victimes de contrôle coercitif dans toutes les régions du Québec, Les intervenantes de son regroupement croient qu'il est tout à fait possible de réunir ces conditions gagnantes. Si tel est le cas, la criminalisation du contrôle coercitif pourrait accroître la confiance des victimes à l'égard du système de justice. Elle permettrait aussi aux acteurs socio-judiciaires de disposer d'un levier de plus pour mieux protéger les victimes, notamment en brisant plus tôt le cycle de la violence. Ce ne serait pas un remède miracle pour autant. Mais cela aurait le mérite d'envoyer un message puissant tant à la société qu'aux victimes. Non, ce n'est pas qu'une banale chicane de couple que vous vivez. Non, ce n'est pas qu'une succession d'incidents isolés sans importance. Non, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de bleu que ce n'est pas sérieux. Il y a là un schéma d'abus de pouvoir, un scénario funeste bien connu qui n'a rien de romantique ni d'acceptable. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle coercitif et c'est criminel. C'était « Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle », un texte de Rima El-Khoury paru le 27 février 2024 dans La Presse.
Esther Trépanier, défricheuse passionnée de l'histoire de l'art, est décédée. Un texte de Stéphanie Bayarjon paru le 5 mars 2024 dans Le Devoir. Un autre regard pour une autre vision. Voilà le legs aussi rare que précieux de l'historienne de l'art Esther Trépanier, décédée lundi. Toute sa longue carrière, à l'université comme dans les musées, elle l'aura consacrée à éclairer les recoins oubliés et méconnus de l'histoire de l'art du Québec. Ses travaux sur les peintres juifs, les femmes artistes et les sujets urbains ont particulièrement enrichi la compréhension du complexe passage à la modernité de sa société. Elle avait préparé son entrée dans l'enseignement en faisant des études de philosophie, de sociologie et d'histoire de l'art à Paris. Sa thèse dans cette discipline, défendue à la Sorbonne, a été remaniée et republiée sous le titre « Peinture et modernité au Québec, 1919-1939, nota bene 1998 ». Elle s'intéresse à la représentation picturale de la ville, à la critique et à la recension des œuvres d'art dans les premières décennies du siècle, dans une vision à la fois historique et socioculturelle. Cette base pionnière et originale a occupé ses recherches pendant les décennies suivantes. Sa carrière de professeur s'est déroulée à l'UQAM, où elle est entrée au département d'histoire de l'art en 1981. Citation « C'était une professeure extraordinaire ». Fin de citation, commente Jocelyne Lupien, qui a suivi ses cours comme étudiante avant de devenir sa collègue professeure. Madame Lupien vient de prendre sa retraite de l'UQAM. Citation « Esther était passionnée et passionnante, érudite, une vraie grande professeure qui se donnait entièrement à la transmission des connaissances. » Fin de citation. Madame Trépanier avait même l'habitude de s'habiller à la manière des périodes dont elle traitait, celle du 19e ou du 20e siècle. Citation « Elle était passionnée de mode aussi », continue la professeure Lupien. « Elle était flamboyante, d'une énergie folle. Elle adorait la mode et elle faisait honneur à la création québécoise. » Fin de citation. Esther Trépanier a pleinement assumé cette autre passion en dirigeant de 2000 à 2007 l'École supérieure de mode de l'UQAM. Son dernier ouvrage s'intitule « La mode sauvera-t-elle Cendrillon ? » L'essai porte sur trois romans campés dans le Montréal des années 1930, où des héroïnes rêvent d'échapper à leur misère en trouvant le prince charmant. L'historienne de l'art y suit les traces des accessoires de mode pour en proposer une nouvelle lecture. Ses travaux de recherche ont aussi alimenté de nombreuses expositions sur la peinture à Montréal dans la première moitié du 20e siècle. La chercheuse a notamment proposé des synthèses sur les peintres juifs de Montréal, les univers urbains dans l'art, les femmes artistes et même sur des pionniers de l'abstraction autres que les automatistes à Montréal dans les années 1940. Ces travaux ont débouché sur une lecture plus nuancée des transformations de la société québécoise. Une certaine légende, un cliché tenace, fait de Paul-Émile Bordua et de son groupe du Manifeste du refus global des avant-courriers de la Révolution tranquille, libératrice de la grande noirceur. Les recherches patientes et profondes de la professeure Trépanier ont modifié cette simplification en montrant, par exemple, comment la modernité s'insérait dans le traitement de l'urbanité par le peintre Adrien Hébert. Ces travaux ont aussi permis de composer une histoire de l'art beaucoup plus touffue en s'intéressant à des communautés artistiques de la ville cosmopolite, là encore pour sortir de la lecture hagiographique du seul génie de l'abstraction, martyr des arts. Esther Trépanier est passée du commissariat à la direction du Musée national des beaux-arts du Québec en 2008, en remplacement de John Porter. L'établissement s'engageait dans un agrandissement majeur dans le cadre du 400e anniversaire de la ville. Elle n'avait alors aucune expérience de gestion muséale, mais avait établi sa réputation comme commissaire d'exposition et rédactrice de catalogues de haute tenue. On lui devait déjà des expositions consacrées à Adrien Hébert, 1992, au paysage au Québec de 1910-1939, au groupe des Sept, 1997. Elle avait aussi été membre du comité d'acquisition en art ancien et moderne du musée. Finalement, Madame Trépanier n'est restée qu'un peu plus de 2 ans en poste comme directrice après avoir organisé des expositions sur la mode et sur Barbie. L'historienne chercheuse est ensuite retournée à l'enseignement tout en continuant à travailler comme commissaire. L'une de ses récentes expositions, réalisée pour le Musée d'art de Joliette en 2022 et présentée par la suite au Musée des beaux-arts de Sherbrooke en 2023, portait sur les corpus de Fritz Brandtner, 1896-1969, Marianne Dale Scott, 1906-1993, Henry Rowland Everly, 1909-1999 et Gordon Weber, 1909-1965, 4 modernistes avant-gardistes, eux aussi écrasés dans la mémoire artistique collective par le rouleau compresseur automatiste. Esther Trépanier était déjà atteinte d'une grave maladie au moment de la préparation et de la présentation de cette dernière exposition. Elle vivait depuis quelques années à Québec. Elle laisse dans le deuil Jacques Tremblay, son conjoint des dernières décennies. C'était Esther Trépanier, défricheuse passionnée de l'histoire de l'art, est décédée. Un texte de Stéphanie Baillargeon, paru le 5 mars 2024 dans Le Devoir.